Chapitre 28. Amour et argent. Madame Van Brandt, qui, de son côté, ressentait plus péniblement l'embarras du moment, parla la première. « Vous ne m'avez point parlé de vous, commença-t-elle. Votre vie est-elle plus heureuse qu'elle ne l'était la dernière fois que nous nous sommes rencontrés ?»«
Je ne puis dire honnêtement qu'elle l'est, répondis-je.
« Y a-t-il quelque chance de vous voir mariée ?»«
Ma seule chance de me marier dépend toujours de vous. »
« Ne dites pas cela » s'écria-t-elle avec un regard suppliant. « Ne gâtez pas le plaisir que j'ai à vous revoir en parlant de ce qui ne peut jamais être. Ai-je encore à vous apprendre comment il se fait que vous me trouviez seule ici avec mon enfant ?»
Je me forçais à prononcer le nom de Van Brandt plutôt que de l'entendre passer par ses lèvres.
« On m'a dit que M. Van Brandt était en prison pour dette, dis-je, et j'ai vu par moi-même, la nuit dernière, qu'il vous a laissé sans ressources. »«
Il m'a laissé le peu d'argent qu'il possédait lorsqu'on l'a arrêté, » répondit-elle tristement. « Ses cruels créanciers sont plus à blâmer que lui pour la misère qui est tombée sur nous. » Cette défense, même négative, de Van Brandt me piqua au vif.
J'aurais dû parler de lui avec plus de réserve, dis-je amèrement. J'aurais dû me souvenir qu'une femme peut pardonner tous les torts que lui inflige un homme lorsqu'elle l'aime. Elle posa sa main sur ma bouche et m'arrêta avant que j'eusse pu continuer.
Comment pouvez-vous me parler aussi cruellement ? Demanda-t-elle.
Vous savez, car je vous l'ai avoué, à ma honte, la dernière fois que nous nous sommes vus, vous savez qu'en secret, mon cœur vous appartient. De quel tort parlez-vous ? Est-ce de celui que j'ai souffert lorsque Van Brandt m'a épousée alors que sa femme vivait et vit encore ? Pensez-vous que je puisse jamais oublier le grand malheur de ma vie, le malheur qui m'a rendu indigne de vous ?
Ce n'est point ma faute, Dieu le sait. Mais il n'en est pas moins vrai que je ne suis pas mariée et que la petite chérie qui joue là-dehors avec sa poupée est mon enfant. Et sachant cela, vous me parlez d'être votre femme.
L'enfant m'accepte pour son second père, dis-je. Il vaudrait mieux et il serait préférable pour nous deux que vous eussiez aussi peu d'orgueil que l'enfant.
De l'orgueil, répéta-t-elle, dans une position comme la mienne, une femme sans ressources, avec un faux mari en prison pour dette, dites que je ne suis pas tombée assez bas encore pour oublier ce qui vous est dû, et vous m'adresserez un compliment plus près de la vérité.
Dois-je vous épouser parce qu'aucun lien légal ne m'attache au père de mon enfant ? Si cruellement qu'il ait agi, il conserve encore ce titre sur moi. Tout méchant qu'il est, il ne m'a pas abandonné, il m'a été enlevé de force. Mon seul ami, est-il possible que vous me jugiez assez ingrate pour consentir à devenir votre femme ? Elle serait vraiment sans cœur la femme qui, dans ma situation, pourrait vous faire déchoir de votre rang dans l'estime du monde et dans le respect de vos amis. La pire des créatures qui hantent les rues reculerait à vous traiter de la sorte. Oh, de quoi sont donc faits les hommes ? Comment pouvez-vous m'en parler ?
Je cédais et n'en parlais plus. Chacune de ces paroles augmentait mon admiration pour la noble créature que j'avais aimée et perdue. Quel refuge me restait-il ? Un seul. Je pouvais encore lui offrir le sacrifice de ma personne. Si amèrement que je haïsse l'homme qui nous avait séparés, je l'aimais, elle, assez chèrement pour être capable de l'aider, lui, par égard pour elle. Quelle infatuation désespérée ! Je ne le nie pas, je ne l'excuse pas, c'était une infatuation désespérée.
Vous m'avez pardonné, dis-je, laissez-moi mériter mon pardon. C'est quelque chose que d'être votre seul ami. Vous devez avoir quelque plan d'avenir. Dites-moi franchement en quoi je puis vous aider.
Complétez la bonne œuvre que vous avez déjà commencée, répondit-elle avec reconnaissance.
Aidez-moi à recouvrer la santé. Rendez-moi assez forte pour pouvoir soumettre à l'appréciation d'un médecin mes chances de vie pendant encore quelques années.
Soumettre vos chances de vie à l'appréciation d'un médecin, répétai-je. Qu'entendez-vous par là ? Je ne sais comment vous le dire sans reparler de M. Van Brandt.
Entendez-vous, par parler de lui, parler de ses dettes ? Demandai-je.
Pourquoi hésiteriez-vous ? Vous savez qu'il n'est rien que je ne sois disposé à faire pour vous tirer d'inquiétude.
Elle me regarda pendant un moment avec une tristesse silencieuse.
Oh, pensez-vous que je consentirais à vous laisser donner votre argent à Van Brandt ?
Demanda-t-elle aussitôt qu'elle put parler.
Moi, qui dois tout à votre dévouement ? Jamais !
Laissez-moi vous dire toute la vérité. Il est de toute nécessité qu'il sorte de prison. Il faut qu'il paie ses créanciers et il a trouvé un moyen de les payer avec mon aide.
Avec votre aide ? M'écriai-je.
Oui, voici sa position en deux mots. Il a reçu, il y a quelque temps, d'un parent riche, une excellente offre d'un emploi à l'étranger et il avait pris tous ses arrangements pour l'accepter. Malheureusement, il est revenu pour me conter sa bonne fortune et, le jour même, il a été arrêté pour dette. Son parent a offert de lui garder cette situation pendant un certain temps et ce délai n'est pas encore expiré. S'il peut payer un dividende à ses créanciers, ils lui rendront sa liberté et il croit pouvoir trouver l'argent nécessaire si je consens à assurer ma vie.
Assurer sa vie !
Ces trois mots révélaient clairement le piège qui lui était tendu. Aux yeux de la loi, elle était nécessairement célibataire. Elle était majeure et maîtresse absolue de ses actes et actions. Qui pouvait, dès lors, l'empêcher d'assurer sa vie, si elle le voulait, et de contracter l'assurance de manière à créer à Van Brandt un intérêt direct à sa mort ? Connaissant ce que je savais de lui et le croyant capable de toute atrocité, je tremblais à la seule pensée de ce qui eût pu arriver si je n'avais pu la rejoindre que plus tard. Grâce à ma position de fortune, j'avais sous la main un moyen certain de la protéger. Je pouvais offrir à ce misérable de lui prêter en une heure l'argent dont il avait besoin, et il était homme à accepter mon offre aussi facilement que je la lui ferais.
Vous ne paraissez pas approuver notre idée, dit Madame Van Brandt en observant avec une perplexité évidente l'effet qu'elle venait de produire sur moi. Je suis bien malheureuse. Il me semble vous avoir innocemment troublée et ennuyée pour la seconde fois.
Vous vous trompez complètement, répliquai-je. Je doute seulement que votre plan pour tirer Monsieur Van Brandt d'embarras soit aussi simple que vous le supposez. Connaissez-vous les délais qui devront probablement s'écouler avant que vous puissiez emprunter de l'argent sur votre police d'assurance ?
Je n'en sais rien, répondit-elle tristement.
Voulez-vous me permettre de prendre l'avis de mes avoués ? Ce sont des hommes de confiance et expérimentés, et je suis certain qu'ils pourront vous être utiles. Quelques réserves que j'eusse mises à m'exprimer, sa délicatesse n'en prit pas moins l'alarme.
Promettez-moi que vous ne me demanderez pas de vous emprunter de l'argent pour M. Van Brandt, s'écria-t-elle, et j'accepterai votre aide avec reconnaissance.
Je pouvais honnêtement le lui promettre. Je n'avais qu'une chance de la sauver, c'était de lui cacher la marche que j'avais résolu de suivre. Je me levai pour m'en aller, pendant que ma résolution me soutenait encore. Plutôt je prendrai mes informations, lui rappelai-je, et plutôt nos doutes et nos difficultés seraient résolus. Elle se leva en même temps que moi, avec des larmes dans les yeux et de la rougeur sur les joues.
Embrassez-moi avant de partir, murmura-t-elle, et ne faites pas attention à mes larmes. Je suis parfaitement heureuse maintenant. C'est votre bonté qui m'accable.
Je la pressai sur mon cœur avec la tendresse inavouée d'un embrassement d'adieu. Il était impossible de me dissimuler la situation dans laquelle je venais de me placer. Je venais, pour ainsi dire, de prononcer ma propre sentence de bannissement. Lorsque mon intervention aurait rendu à la liberté mon indigne rival, pourrais-je me soumettre à la nécessité dégradante de la voir en sa présence, de lui parler devant ses yeux ? Ce sacrifice était au-dessus de mes forces et je le savais. Pour la dernière fois, pensais-je en l'étreignant un moment de plus. Pour la dernière fois. L'enfant accourut vers moi les bras ouverts lorsque je parus sur le palier. Ma virilité m'avait soutenu pendant mes adieux à sa mère. Ce ne fut que lorsque le petit visage rond et innocent de l'enfant s'appuya tendrement contre le mien que ma force m'abandonna. Je ne pus parler.
Je la déposai doucement et en silence sur le sol, et j'attendis à l'étage inférieur que je fus en état d'affronter le monde de la rue.